perkeleen tontot!
Vendredi, le métal fait son show sur Bac FM. Bienvenue dans l'émission Check Me Load. Alors, nous sommes le 7 octobre aujourd'hui, ça vous le saviez déjà. Et au programme de cette édition, il y aura bien évidemment de la nouveauté avec le dernier Trivium et le dernier Gus J. Mais ce sera en deuxième partie d'émission, puisqu'avant cela, le groupe qui sera à l'honneur de ce Check Me Load, c'est 6h33, qui a sorti vendredi dernier Fairy Tales for Strange Lullabies, The Dome, un nouvel album qui est un missile atomique. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'avoir en direct dans pas très longtemps un des membres du groupe, et croyez-moi, j'ai énormément de choses à lui demander. 6h33 qu'on retrouvera d'ailleurs également à la fin de l'émission dans la rubrique Sortez Cover, avec leur excellente revisite de la chanson Starlight, un tube électro du début des années 2000 signé des Superman Lovers. Mais ne brûlons pas les étapes, commençons par le commencement, c'est-à-dire une petite présentation de 6h33. J'espère que j'ai le temps avant l'appel d'un des membres du groupe, puisque ça va tout se faire en direct, donc ça risque d'être un petit peu freestyle par moment dans ce début d'émission. Donc 6h33, un groupe originaire d'Île-de-France, groupe de métal avant-gardiste qui voit le jour en 2008 et qui depuis fait feu de tout bois. Alors bien évidemment, au fil du temps, son line-up a pas mal évolué, on va en reparler tout à l'heure pendant l'interview, mais deux des membres historiques sont encore là aujourd'hui, il y a le guitariste Nico qui assure également la mise en scène, et puis il y a Emmanuel Rousseau qui est au clavier et à la prog des percussions. C'est un groupe qui a d'abord été mené par le chanteur Kinky Zombie, qui a sorti avec lui un premier album qui s'appelle Orphans of Good Manners, c'était en 2011, un disque qui n'était pas passé inaperçu à l'époque, puisque la presse parlait déjà de Digne Rejeton, de Faith No More ou de Devin Townsend. Mais Kinky Zombie ayant quitté le groupe peu de temps après, c'est un certain Arnaud Strouble qu'on va retrouver en tant que chanteur invité sur l'EP Giggle, Garland and Gallows, et puis Arnaud Strouble, on va le retrouver en tant que chanteur officiel sur l'album The Stench from the Swelling True Story en 2013, un album qui avait collé une bonne mandale à tout le monde. Mais voilà, Arnaud Strouble souhaitant se consacrer à d'autres projets, dont la reformation de Carnival In Call, le groupe qui avait fait sa renommée au milieu des années 90, il va quitter 6h33, il va laisser le micro en d'excellentes mains, celle de Florent Charlet, dit Rorschach, qu'on va découvrir sur Deadly Sin, un concept album sur le thème des péchés capitaux, des sept péchés capitaux, paru en 2015, qui avait encore provoqué un large enthousiasme. Et puis enfin, vendredi dernier, le 1er octobre, 6h33, sortait Fairy Tales, alors Fury comme la peur, Fury Tales for Strange Lullabies, The Dome, qui est de nouveau un concept album dans lequel on suit un jeune artiste en quête de gloire qui va découvrir le meilleur et le pire du showbiz, et c'est un feu d'artifice auditif, sensoriel, qui explose à nos oreilles pendant les 11 titres qui composent le disque. C'est puissant comme du métal, avant-gardiste, coloré comme de la fusion. C'est dansant comme de l'électro, grandiloquent comme une bande originale de Danny Elfman. Fairy Tales for Strange Lullaby The Dome, c'est plus qu'un simple concept album. Il tutoie les étoiles des plus grands opéras rock. Et en plus, pour mon plus grand plaisir, les clins d'œil à la pop culture sont omniprésents. Alors, avant d'en parler avec un des membres de 6h33, on aura soit Rorschach, soit Nico au téléphone, a priori. Eh bien, voici, pour vous mettre dans l'ambiance, un premier extrait de l'album avec la chanson Act Like an Animal. On écoute 6h33 sur Bac FM. L'émission Check Me Load sur Bac FM avec à l'instant Act Like an Animal du groupe 6h33. Il s'agit d'un extrait de l'album Fairy Tales for Strange Lullabies The Dome qui est paru vendredi dernier, et on devrait avoir en ligne d'ici quelques minutes, quelques instants, le chanteur Rorschach ou le guitariste Nico. Voilà, c'est ce qu'on appelle la magie du direct, hein. En attendant, ce que je vous propose peut-être, c'est d'écouter un deuxième extrait de cet album, un extrait qui cette fois-ci va vous faire swinguer pour vous montrer... Ah non, je crois qu'on a un appel. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer la musique et puis je prends l'appel. On écoute 6h33. Who is buying Sudden Bonheur du groupe 6h33. Il s'agit d'un extrait de Fairy Tales for Strange Lullabies, Dome, paru vendredi dernier. Et pour en parler, eh bien, j'ai le plaisir d'avoir en ligne Flo, dit également Rorschach, qui est chanteur du groupe. Salut Flo.
Salut à toi. Salut à tout le monde.
Alors comment ça va cette journée de promo? Est-ce que ça se passe bien?
Ah oui, ça se passe super. Écoute, parler de ce qu'on aime faire et de notre musique avec des gens qui aiment ce qu'on fait, c'est toujours plaisant.
Eh ben ça tombe bien parce que j'ai surkiffé l'album.
Ah, tu fais plaisir, ça fait plaisir.
Du coup, j'ai tout plein de questions à te poser. J'ai peur qu'elles partent un peu dans tous les sens, mais je vais essayer de quand même pas trop sortir de ma ligne de conduite.
Sors, fais ce que tu veux,
Bon, on va commencer par une question très concrète, hein, puisque depuis la sortie de l'album précédent, Deadly Sins, il y a eu quelques petits changements de line-up. Du coup, j'aimerais bien qu'on fasse, pour commencer, un petit point là-dessus. Il y a eu notamment le remplacement de votre bassiste.
Oui, c'est ça. Hein? Alors en fait on avait deux claviéristes, ouais. Manu alias Owakanitoa et Rima alias Hashtag. Tous les deux ne pouvaient plus continuer à tourner avec nous, à continuer à faire partie du groupe en live. Mais ils font toujours partie de la famille déjà de 633. Mais Manu qui lui va continuer avec nous au niveau de la création des arrangements et des batteries, parce que c'est lui qui programmait les batteries jusque-là, oui. Qui faisait les arrangements et qui a écrit en l'occurrence un petit bout d'une intro d'un de nos morceaux. Donc on a récupéré notre ancien claviériste, Mr. Z, qui était sur le premier et deuxième album, qui revient avec nous.
D'accord.
Donc voilà, nouveau venu. Et on a donc changé de bassiste aussi. On a récupéré un nouveau bassiste qui s'appelle Manolo et donc qui remplace Sad, qui donc qui quitte le groupe, et un nouveau batteur, enfin un premier batteur, parce qu'on n'avait pas de batteur jusque-là.
Oui, voilà, c'est une intégration, là.
C'est ça, on intègre un nouveau batteur, un premier batteur, qui s'appelle Cédric alias Viken. Et donc voilà, au niveau du line-up, plus Nico, donc à la guitare et à la composition, et moi-même au chant et en tant qu'auteur.
Et Cédric, que les amateurs de métal connaissent également en tant que batteur de Malmort.
Exactement, c'était le batteur de Malmort qui il l'est plus actuellement parce qu'il a quitté le groupe avant d'intégrer 6h33. Et donc voilà, ça je connais pas toutes les histoires par rapport à ça, mais il était dans Malmort en effet, et là la Malmort a changé de line-up aussi complètement, mais je connais pas tous les détails.
Bon, on verra ça avec eux dans une prochaine interview.
Voilà.
Alors, nous on est là pour parler de Fairy Tales for Strange Lullabies Dome. C'est donc un concept album qui se présente un peu comme un opéra rock totalement déjanté, qui nous raconte de façon très cinématique l'histoire d'un jeune artiste en quête de célébrité. Et la première chose, c'est qu'on se prend une explosion de pop culture absolument jouissive, avec beaucoup de références au ciné, jeux vidéo, peut-être aussi à des séries, des livres. Et puis il y a ce mélange incroyable d'influences musicales qui fait se rencontrer Devin Townsend avec Emerson Lake Ken Palmer, Danny Elfman, Mike Patton, Carpenter Brut. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de la relation de 6h33 à la pop culture?
Bah écoute, je pense que c'est la même que tu as toi, c'est la même qu'on a tous.
Je pense.
On a tous un rapport. Alors évidemment que la tranche d'âge va sûrement varier selon à quel âge on avait 15 piges, à part dans quelles années on avait 15 piges tous, mais la pop culture fait partie de nous, mais de tout le monde en fait. Enfin, personnellement, j'ai grandi, je suis né l'année où ils ont sorti le premier Alien, les premiers Star Wars. Donc, évidemment que ça fait partie de nous, autant que les artistes qu'on a écoutés à l'époque et qui sont aussi divers et variés que Michael Jackson, Stevie Wonder et Guns N' Roses, ouais. Et en passant par Zappa et par tout ce que la musique avait de folle dans les années 80-90. Et vu que voilà, on a grandi tous dans ces périodes-là. Moi, j'avais, je suis né dans toute fin des années 70, tout début des années 80. Donc, on a grandi avec tout ça. Et c'est ce qu'on essaye déjà de digérer depuis toujours, en fait, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Mais là, simplement, je pense qu'on digère de mieux en mieux, qu'on affine un peu la patte 6h33. Mais voilà, on a voulu parler de ce qu'on était, de ce qui nous construisait, ce qui nous avait construit depuis ces années-là, parce qu'en fait, on se rend compte que, et d'ailleurs, il paraît qu'il y a une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps, qui dit qu'on reste tous un peu bloqués dans les années, quand on avait entre 10 et 25 piges.
Je l'ai vu cette étude, ouais.
Voilà, on est des éponges, et où en plus, dans les années 80-90, il y avait
foison, quoi.
Ouais. C'était génial. Donc voilà, en fait, ça a toujours été assez cinématographique, 6h33, il y a toujours eu un peu les références à tout ça. Et donc, il y en a encore plus aujourd'hui, peut-être un petit peu plus marqué, typé années 80, voilà, avec du néon et de la boule à facettes, quoi.
Et en plus, en ce moment, on peut pas se le cacher, hein, les années 80, 90, c'est quelque chose qui parle un peu à tout le monde, hein. Tout le monde est un peu sur ce trip de nostalgie. Et les parents qui étaient des enfants à cette époque-là transmettent un peu cette culture à leurs propres enfants. Donc, ça continue à parler aux jeunes de maintenant, quoi.
Exactement. Mais moi, je vois, j'ai deux petits garçons qui sont en bas âge. Les premières choses que j'ai fait quand on écoutait de la musique, c'est de leur faire écouter du Michael Jackson.
Ouais.
Et du Korn derrière. Et tu vois, voilà. Et j'ai hâte qu'ils voient les premiers. Tu vois, j'ai promis à mon fils qui regarderait Ulysse 31 dans un moment, dans pas trop longtemps. Tu vois, ces dessins animés-là, quand on était gamin, tous ces trucs-là, bah, nous ont nourris et font ce qu'on est aujourd'hui, finalement. Donc, voilà, ça parle, ça veut parler à tous ceux à qui ce genre de référence parle, tout simplement.
Alors, musicalement parlant, on peut dire que 6h33 fait du métal avant-gardiste, mais avec depuis toujours quand même une ouverture vers des sonorités électro. En ce qui concerne plus particulièrement ce nouvel album, j'ai trouvé qu'on était un peu entre Phantom of the Paradise et l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais dans des versions quand même 2.0, hein, avec des sonorités qui vont du rock progressif au synthwave, en passant par le funk, le swing, le jazz. Et au fil des titres, bah, on pense à énormément de groupes, d'artistes. Tout à l'heure, j'ai cité un peu Devin Townsend, Mike Patton, mais en vous écoutant, j'ai aussi pensé par exemple à Rush ou à Skip the Use, ce qui n'a rien à voir.
Ah oui.
C'est pour dire si le disque est riche et varié. J'imagine que votre, t'as un peu répondu, mais votre univers musical aux uns et aux autres est extrêmement éclectique, quoi.
C'est ça, extrêmement éclectique. Et puis, enfin, je pense que.
Et vous êtes des curieux, en fait.
On est des curieux.
Qui n'ont peur de rien.
Alors, non, on n'a pas de limite, ouais. On se met pas de limite à partir du moment où ça nous parle et où ça nous fait marrer et où on trouve ça cohérent. On se met pas de limite. En même temps, je pense que, encore une fois, c'est des choses qu'on a tous en nous, qu'on a juste peut-être digérées de mieux en mieux au fur et à mesure des années, et qu'on rend là d'une manière un peu plus léchée et contrôlée, peut-être. Mais c'est sûr que on est tous autant fans de Michael Jackson que de Opeth.
Ouais,
voilà,
ouais.
Pour prendre deux trucs assez larges et tout ce qui est au milieu, avec aussi la musique de film, notamment, c'est vrai qu'on est très fans de Danny Elfman ou de Ennio Morricone. Et ça pouvait ressortir déjà, ça ressortait déjà notamment l'album précédent ou si encore d'avant, mais là, ben voilà, encore d'une manière peut-être un peu plus assumée, d'un peu plus contrôlée. Ça fait le deuxième album où Nico et moi on travaille vraiment ensemble sur la composition et la création de cet univers et des thèmes qu'on aborde et du concept. Donc voilà, on apprend à travailler de mieux en mieux ensemble. Je pense que c'est ça qui se ressent aussi dans ce nouvel album.
Et c'est vrai que, une fois qu'on a enclenché le bouton play, jusqu'à la dernière note de la dernière chanson, ça fuse dans tous les sens. On va de surprise en surprise. Votre musique, elle est totalement imprévisible. Pourtant, malgré parfois une petite complexité, les morceaux, ils sont hyper fluides, directs. On se perd jamais. C'est d'une cohérence incroyable, quoi.
Ah, écoute, je suis ravi de l'entendre. Tu sais, c'est nous, on a la gueule dedans depuis un petit moment, et donc on n'a pas le recul. On espère que ça va parler à des gens comme là, comme toi, en l'occurrence. Et c'est super. Ça fait vraiment très plaisir d'entendre quelqu'un qui nous dit ce que nous on espère. Voilà, je suis le premier à me balader dans la rue avec le scud sur les oreilles et avoir envie de swinguer et de claquer du doigt en marchant avec une démarche qui groove. Ben voilà, c'est quelque chose qui nous a touché vraiment en l'écrivant, et je suis ravi de voir que ça parle à des gens comme toi.
Ah ouais, moi ça me parle, non seulement ça me parle, mais en plus, enfin, je trouve que c'est un album qui fait du bien, quoi. Ça met la patate.
Moi aussi je trouve que ça fait du bien, ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que je crois que c'est aussi ce qu'on voulait faire dans cet album, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus direct.
Ouais.
Que les albums d'avant, tout aussi complexe, hein, si tu creuses un peu, mais surtout d'une énergie positive,
ouais.
Quelque chose de. C'est vrai que c'est difficile de mettre un genre sur ce qu'on fait. Et tout à l'heure, j'étais en interview et j'ai sorti le terme fun prog, parce que voilà, c'est ça,
c'est prog dans la démarche.
Ouais. Mais voilà, et ça reste très joyeux, très entraînant, très dansant. Donc voilà, ça donne normalement envie de shaker du booty un petit peu et de headbanger en même temps. Donc voilà, c'est ce qui leur sort dans les gens qui l'écoutent depuis qu'il est sorti il y a une semaine à peine. Et donc voilà, ça nous fait très plaisir, parce qu'on espérait pouvoir retransmettre ces émotions-là, ces énergies-là, et ça a l'air de marcher en tout cas sur une petite partie des gens.
Et justement, est-ce que l'arrivée d'un batteur en chair et en os, en la personne de Viken, ça vous a ouvert de nouvelles perspectives pour ce nouvel album, pour la dynamique, tout ce qui est rythmique?
Alors, pas particulièrement, parce que l'album était déjà composé et écrit, et les batteries sont toujours programmées.
D'accord.
C'est pas
Viken
qui joue dessus. En fait, c'était notamment pour le live, où on a eu beau faire ce qu'on voulait, ce qu'on pouvait pour essayer de rendre l'impact de la batterie, ça marchait pas suffisamment. Il nous manquait le côté physique de la grosse caisse qui te fait trembler le sol, des cymbales qui balancent des fréquences, qui te pètent à la tête.
Ouais.
Donc du coup, dans le souci de pouvoir avoir vraiment ce rendu-là, on s'est dit à un moment, enfin voilà, on a fait un petit tournant avec le changement de line-up aussi, on a essayé de retirer les masques et de prendre ce batteur pour taper dans ce qui nous ressemblait aussi. Voilà, on avait envie d'avoir un batteur avec nous sur scène. Et puis pour la suite, voir ce que ça va pouvoir procurer au niveau de la composition, ça on verra dans un second temps, mais là c'était vraiment pour la scène, notamment pour la scène.
D'accord. Alors, on va revenir un petit peu sur l'histoire de Fairy Tales for Strange Lullaby The Dome, qui, rappelons-le, est un concept album. On y suit les aventures d'un jeune artiste qui est en quête de gloire, de célébrité, qui va découvrir le monde de strass, de paillettes, du show business, mais aussi tous ses côtés sombres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette histoire et sur la manière dont elle est abordée dans l'album? Parce que ça paraît simple comme ça, mais c'est un petit peu plus complexe que ça.
Mais c'est ça quand même.
C'est
le fil rouge,
même.
En tout cas, c'est ça. c'est complètement ça. Narrativement parlant, j'ai voulu écrire ça d'une manière à, dans le premier morceau d'ailleurs, c'est ce qu'on exprime, dans Wacky Worms, c'est-à-dire, ouais. J'ai toujours plein de voix dans ma tête en même temps, en fait. Tu vois, c'est comme ce dessin animé Vice Versa. Je sais pas si tu vois ce que c'est.
Oui, je vois bien.
Voilà, où chaque émotion est incarné par un personnage différent. Et c'est un petit peu ça comme ça que moi je vis les choses. C'est-à-dire, il y a le flow colérique, il y a le flow doux, il y a le flow, toutes ces émotions-là qu'on a à l'intérieur de nous, en fait. Et de temps en temps, bah, toi-même, tu sais, t'entends une de ces voix et tu te dis, tu luttes contre, tu vois, justement,
ouais.
Quelque chose. Voilà. Et ben, c'est exactement ça. Pour moi, on est tous un peu pareil. On jongle un peu avec toutes ces émotions à l'intérieur de nous qu'on réprime souvent et qui nous parlent de l'intérieur et qui font qu'on va faire un choix, qu'on va agir. C'est comme ça que j'ai voulu écrire narrativement les choses. C'est pour ça que ça jongle souvent entre toi, tu, nous, il. Enfin, tu vois, voilà,
ouais.
c'est toutes les voix qui parlent un peu en même temps. Et donc, voilà, narrativement, ça se passe comme ça. Le personnage qui va essayer donc de percer et qui va percer, ça, c'est le fil rouge. Et il va donc découvrir et rencontrer plein de personnes hautes en couleur, comme le Holy Golden Bonheur, par exemple, ou comme le clan des Willis de Hishies dans le Willis de Hishies. Il va rencontrer des personnages hauts en couleur qui vont agrémenter son voyage et influencer les choses. Mais c'est comme des petits spin-offs. Il y a des petits spin-offs comme ça, comme Holy Golden Bonheur, qui te raconte l'histoire de ce mec-là, qui est le plus gros pimp du dôme et qui va prendre notre héros sous son aile en lui promettant de le faire réussir. Mais en même temps, il va devoir faire des choses qui sont pas toujours très clean. Ça nous plonge un peu dans cet univers, un peu à la manière d'Assin City, tu vois, où t'as un fil rouge. Et en même temps, des petites histoires de personnages qui font partie de cet univers et de cette ville et qui vont interagir au fur et à mesure les unes avec les autres ou pas, voilà, mais et qui dessinent un peu cet univers qu'on est en train de créer depuis déjà l'album d'avant. Si tu regardes le clip de Nerd ou de Black Widow, on était déjà dans une sorte d'univers un peu parallèle où des gens un peu chelous, enfin, on n'est pas très loin de ce qu'on vit là aujourd'hui, mais d'une manière un peu plus opéra rock, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors justement, le titre du disque Fairy Tales for Strange Lullaby, The Dome, qu'on peut traduire par contes effrayants pour d'étranges berceuses, hein, si, enfin, c'est une traduction d'à peu près. Hein.
C'est ça. J'ai voulu jouer sur le jeu de mots de Fairy Tales,
voilà.
Évidemment. Voilà, c'est ça exactement. Et donc c'est une première partie, The Dome.
Voilà, c'était ma
chapitre.
Question.
Voilà. En fait, il y aura un deuxième chapitre. L'histoire, si on suit un peu, enfin, les paroles vont sortir bientôt sur Internet, hein, parce qu'on les a pas mises dans l'album, parce qu'on voulait privilégier les illustrations qui font partie du livret, mais les paroles vont arriver bientôt sur Internet. Et c'est vrai que la dimension complète de l'album, t'as besoin des paroles pour vraiment comprendre tout le truc. Mais voilà, dans la trame, on arrive à un climax à un moment et la suite de l'histoire aura lieu dans l'album qui suivra.
Et entre parenthèses, ce titre d'album, alors moi, il m'évoque à la fois, tu vas voir, ça n'a rien à voir, mais moi, le titre en lui-même, il m'évoque à la fois les contes de la crypte, pour le nom.
Ouais, génial. Bah oui.
Et puis l'univers de Stephen King. Et je me posais à ce propos-là une question de savoir si le morceau Flesh Cemetery, c'était un double clin d'œil à la fois à Pet Cemetery de Stephen King et à Flesh for Fantasy de Billy Idol.
Alors, évidemment, pour Stephen King, tu as raison.
Bah, en plus, j'ai vu le visuel, donc bon, ça m'a un peu
orienté. Avec le chat et tout, ouais, voilà, c'est ça. Donc oui, c'est un clin d'œil. Alors, le titre du morceau est un clin d'œil, voilà, c'est, mais le morceau est pas du tout, un clin d'œil à Stephen King ou à Billy Idol. Billy Idol, tu vois, non, on n'y avait pas pensé. Mais en effet, le Cemetery, au début, on voulait même l'écrire comme
avec le S.
Comme Stephen King l'avait écrit, voilà. Et finalement, dans les échanges de trucs, on s'est rendu compte qu'il s'était un peu perdu le S, mais on a voulu évidemment faire un clin d'œil à Stephen King. Et évidemment que c'est des univers qui nous parlent. On a grandi avec ça, voilà. Ça fait partie de la pop culture. Ça fait partie complètement de notre pop culture. On a tous vu Shining, on a tous vu Cimetière, on a tous vu Christine. Voilà, tu vois, des univers où il y a une bagnole qui parle. Voilà,
que des must-have, quoi.
Pardon ?
Que des must-have en termes de cinéma, des films cultes, quoi.
Et en même temps, voilà, du Tim Burton dans la ville. Évidemment, moi, j'ai le Gotham City des deux premiers Batman.
Ouais,
qui vient en tête. Et encore une fois, c'est tout ce qui nous a construit, cette pop culture-là, de ces années-là, qui était très riche en création, parce qu'il n'y avait en plus encore pas les moyens techniques, donc il fallait les idées.
Ouais.
Et donc, ça nous a amené dans des univers qui étaient plus barrés, en fait, finalement, tu vois.
J'ai bien aimé aussi tous ces visuels un peu à la mode Sega, qui rappellent...
Ben c'est ça, encore une fois, voilà, c'est cohérent avec cette époque-là, où on a été élevé avec les consoles de Sega Master System et Mega Drive.
Ouais.
Et donc voilà, c'est encore une fois, ça ramène un peu, c'est une sorte de grosse manette de Proust pour tous ceux qui ont connu ces époques-là. Et en même temps, on a envie d'essayer de parler aux jeunes générations aussi qui gardent un peu ces années 80-90, elles sont toujours un peu là, elles reviennent d'ailleurs à la mode pas mal, comme tu disais. Et donc voilà, les jeunes aussi ont accès, les parents font écouter ça à leurs gamins, et je pense que c'est le futur années 70 qu'on a connu il y a quelques années.
Ouais,
voilà,
c'est ça.
Et en tout cas, c'est ça qu'on voulait exprimer, nous, et c'est ça qui nous plaît, c'est ça qui nous ressemble le plus.
Alors, depuis toujours, hein, 6h33, c'est un groupe qui développe énormément son univers graphique, visuel, en même temps que son univers musical. Là, il y a déjà eu deux clips qui ont été révélés, tirés de cet album. Est-ce qu'il y en a d'autres de prévus ?
Il y en a d'autres de prévus, ouais, il y en a d'autres de prévus. Notamment Hot Damn Chicas, où j'ai eu l'idée d'un clip participatif où c'est vous toutes femmes qui vont faire ce clip, mais on en reparlera quand je lancerai le truc dans un futur assez proche. Donc voilà, je vais pas t'en dire plus, mais bientôt tu seras sûrement au courant.
On suivra ça sur les réseaux sociaux.
Voilà. et donc, et d'autres, on a envie d'en sortir un aussi avec Party Inc. Et puis c'est des choses qui vont après avoir leur intérêt dans les animations qu'on aura sur l'écran, qu'il y a sur scène avec nous, parce qu'on a un grand écran avec des animations qui passent derrière et tout. Donc voilà, on va continuer à s'atteler à ça pour développer ça sur scène aussi derrière. Et voilà, donc au moins deux clips encore à venir.
D'accord. Ouais, ça c'est pareil. La scène, là, on... Après avoir écouté l'album, vu vos visuels, on a hâte de savoir ce que vous nous réservez en live, quoi. J'imagine que vous avez encore monté un truc tout nouveau.
Bah, tout nouveau, on reste dans l'univers qu'on avait développé sur Asylum Picture Show 2.0, c'est-à-dire, voilà, on a une ingé light avec nous qui monte des scénos aussi et qui travaille avec nous depuis un petit moment. Donc on va simplement, comment dire, réorienter un petit
D'accord.
peu, il y a un peu plus de néon, la boule à facettes va tourner un peu plus longtemps, et il y aura toujours l'écran, mais on travaille sur deux configs un peu différentes, c'est-à-dire une où il n'y a pas l'écran et on est en mode un peu plus classique rock avec un batteur, ce qu'on n'avait pas avant, et du coup avant on était un petit peu tributaire de cet écran, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui, et donc ça va nous permettre de faire plusieurs plus petites dates, parce que l'écran nous demandait une infrastructure avec une scène assez haute en plafond, avec tout un bordel qui fait qu'on pouvait pas le mettre tout le temps. Donc voilà, on n'a pas encore eu le temps de travailler sur les animations de l'écran parce que Covid oblige, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, mais on va continuer à le développer là pour proposer de nouvelles animations dans l'écran et le remettre sur scène avec nous dès qu'on aura une tête d'affiche ou de quoi vraiment l'amener. Et en même temps, voilà, on a une structure, on a une composition de groupe là qui nous permet d'ouvrir pour des groupes plus facilement, comme on va ouvrir la semaine prochaine pour Psych Up au Forum de Montréal le 16 octobre. Et ça nous permet, voilà, d'arriver avec une config un peu plus classique qui va nous permettre de faire plus de dates encore que ce qu'on faisait avant, on l'espère.
Et vous en avez beaucoup de calé là, les dates pour l'instant?
Pour l'instant, c'est compliqué parce que
toutes les dates annulées
pendant le confinement sont reportées. Donc il y en a plein qui disent jusqu'à septembre 2022, tout est un peu bloqué, mais il y a quand même plein de petites salles qu'on peut aller chercher justement en Ile-de-France, sur Paris. On va essayer de mettre ça en place. On a une personne avec qui on travaille qui nous charge des dates Cuff Metal qui s'occupe de nous et d'un autre groupe qui s'appelle Scarline qui travaille avec nous pour trouver un petit peu des dates et on est toujours en recherche d'une boîte de booking officiellement qui le prendrait sous son aile mais donc voilà, c'est un peu du do it yourself pour l'instant, à aider par ce fameux Cuff Metal qui a de bonnes connexions et qui nous permet d'avoir de bonnes choses en prévision. Il y a des festivals qu'on risque de faire l'an prochain comme le festival 666 ou le Cave Fest. En tout cas, on est en pour parler en ce moment là-dessus.
D'accord, le festival 666 organisé par des tout jeunes gens en plus qui font un travail remarquable.
Voilà. Ouais, c'est pour ça. Voilà, c'est ces initiatives là qu'on aime aussi aller chercher. Donc bon voilà, l'album vient de sortir, on a la date qui arrive la semaine prochaine. On va pouvoir se pencher un petit peu plus sur la suite juste après ça.
Eh ben en tout cas, nous, on va suivre tout ça sur les réseaux sociaux parce que moi, j'ai envie de connaître la suite de toutes ces aventures. En tout cas, merci Rorschach de nous avoir présenté ce nouvel album de 6h33.
Mais c'était un plaisir. Merci à toi de m'avoir contacté. Merci de nous aimer. Qu'est-ce que tu veux que je
dise ? Alors, je rappelle que l'album, il s'intitule Fairy Tales for Stranger Lullabies, The Dome. J'espère que je le prononce à peu près correctement.
C'est pas trop mal, je t'en sors bien.
C'est passable. Il est disponible depuis le 1er octobre en version numérique, donc streaming, téléchargement, en version physique aussi, me semble-t-il.
Oui, tu peux déjà le commander sur certains sites. Il va arriver très très vite dans les bacs, dans toutes les bonnes boulangeries. Et bientôt, une version vinyle arrive aussi pour les
collectionneurs.
C'est ça.
Et quant à nous, pour conclure cette interview, on va encore écouter un nouvel extrait de cet album que, je répète, j'ai adoré vraiment, que ce soit la musique, les visuels et tout, c'est vraiment tout ce que j'aime. On a grandi durant la même décennie, je crois qu'on est à peu près de la même époque.
Écoute, je vais pas te demander ton âge, mais en tout cas,
je suis né à la toute fin des années 70, donc.
Donc on a le même âge, je pense exactement.
Et donc,
je suis
ravi. Bah, moi aussi. Et pour conclure, donc, on va écouter le titre Wacky Worms, justement, qui ouvre l'album. Merci encore, Rorschach. Et puis, bon courage pour cette journée de promo.
Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt pour une prochaine interview et peut-être sur la route.
Yes. We're just a bunch of wacky worms in your cerebral. So you never get what you decided to. To concept your life. Wake up and let the hogs out. Hey, show me what you cry about. See what you hide. Come in the door, no way back. Say goodbye to countryside. Just see an angel alive. I want to hold our way. Yippee-yo, yippee-yay. I want to shake it, shake it, shake it. For your bang and a beat it so.
Wacky Worms du groupe 6h33 sur Back FM dans l'émission Check Me Load. Il s'agit du titre qui ouvre l'album Fairy Tales for Strange Lullabies Dome. Incroyable nouveau concept album du combo paru vendredi dernier. J'ai adoré, c'est une pure merveille. Et si vous venez de nous rejoindre, vous avez malheureusement loupé l'interview de Rorschach, le chanteur du groupe, mais vous pourrez bien sûr bénéficier d'une séance de rattrapage à la carte puisque le podcast de l'émission sera mis en ligne d'ici peu. Et puis je rappelle qu'on écoutera de nouveau 6h33 tout à l'heure, ce sera dans la rubrique Sortez Cover, avec un titre un petit peu plus ancien mais tout aussi enthousiasmant. En attendant d'en arriver là, voici maintenant quelques nouveautés, avec d'abord deux nouveautés du jour. On va commencer par le 10e album des Américains de Trivium, qui s'intitule In the Court of the Dragon, qui arrive seulement un an et demi après What the Dead Man Say, qui était paru au printemps 2020 en plein confinement. Alors Trivium, c'est un groupe qui est devenu un fleuron de la scène metalcore. C'est un groupe qui nous vient d'Orlando en Floride, qui a été créé en 2000 par des potes de lycée. Il est mené depuis toujours par le chanteur-guitariste Matt Heafy, qui est le seul membre historique encore présent. Je parlais tout à l'heure de metalcore à propos de Trivium, mais il faut quand même souligner que le combo américain, il se distingue quand même assez largement des autres groupes de cette mouvance, parce que ils ont une approche qui est beaucoup plus trash, avec des influences très heavy, prog, death, ce qui leur donne une identité assez particulière. Pour vous donner un petit peu une idée, les influences de Trivium, elles vont de Metallica à Dream Theater, en passant par Iron Maiden. Et ce son, on l'avait découvert en 2003, lorsqu'était sorti Ember to Inferno, leur premier album. C'était un premier essai qui était déjà assez concluant, mais c'est avec le suivant Ascendancy en 2005 que Trivium, qu'on compare alors beaucoup à Metallica, va commencer réellement à se faire connaître. La consécration, elle sera plus très loin, elle va arriver l'année suivante en 2006 avec The Crusade, qui va devenir son premier gros succès commercial international. Et désormais, donc, la discographie de Trivium, elle compte 10 albums studio qui en règle générale sont tous plutôt réussis. Notons au passage que sur les dernières productions du combo jusqu'à ce jour, à savoir Silence in the Snow paru en 2015, The Sin and the Sentence paru en 2017 et What the Dead Man Say paru en 2020, on a pu constater une évolution assez importante vers des sonorités plus heavy. Et si vous aimez à la fois le Trivium des débuts et le Trivium des dernières années, eh bien vous allez adorer In the Court of the Dragon, qui possède à la fois la dimension épique, très cinématique et progressive de Shogun, et puis aussi l'efficacité, la puissance et le côté incisif des derniers albums. Ainsi, les 10 nouvelles compos de ce 10e album, elles alternent entre titres coup de poing qui sont directs, concis, et œuvres plus fouillées, plus complexes, qui donne un bel équilibre et une belle dynamique à cet album, dont la production est, tout comme ses deux prédécesseurs, signée Josh Wilbur. Alors vous l'aurez compris, In the Court of the Dragon, c'est une œuvre complète que nous présente Trivium, une œuvre qui transpire la créativité. J'ai évoqué tout à l'heure un album épique, et bien sachez que le ton est d'ailleurs donné dès l'artwork du disque, qui est une peinture originale du peintre français Mathieu Nozière. On écoute tout de suite le morceau titre The Court of the Dragon. Voici tout de suite Trivium sur Backfire. Vous écoutez l'émission Check Me Load sur Back FM. À l'instant, c'était le titre In the Court of the Dragon du groupe Trivium qui sort aujourd'hui un 10e album intitulé également In the Court of the Dragon. Lui est né en Grèce, mais depuis qu'il a débarqué à Boston à l'âge de 18 ans, il est devenu le plus américain des guitar-héros grecs. J'ai nommé Gus G, qui sort aujourd'hui un nouvel album intitulé Quantum Leap. Il s'agit de son 4e disque en solo, mais de son premier opus 100% instrumental. Gus G, de son vrai nom Kostas Karamitroudis, est donc né à Thessalonique dans les années 80, fin des années 70-80, je sais plus, en tout cas, au tout début 80, je crois. Il s'installe aux États-Unis lorsqu'il intègre le prestigieux Berklee College of Music, et là-bas il va fonder avec d'autres compatriotes établis aux États-Unis le groupe de power metal Firewind, qui a sorti un album il n'y a pas si longtemps. C'est avec ce groupe qu'il se fait connaître, mais parallèlement à cela, il va s'illustrer aux côtés d'un groupe suédois qui s'appelle Dream Evil, dont il est un des cofondateurs. Il va aussi participer à plein de projets, par exemple il participe à l'album Doomsday Machine d'Arch Enemy, ça c'était en 2005, et puis surtout en 2009 il va devenir le guitariste d'Ozzy Osbourne. Le Madman choisit en effet le jeune prodige de la guitare grec pour remplacer Zakk Wylde, une histoire qui va durer jusqu'au retour de Wylde en 2017. Et puis enfin, Gus G, c'est un hyperactif. Il s'est donc tout naturellement lancé en 2014 dans une carrière solo qui nous intéresse aujourd'hui. Alors depuis, sous le nom de Gus G, notre virtuose de la six cordes a sorti I Am The Fire en 2014, sur lequel on compte quelques invités premium. Il a ensuite sorti Brand New Revolutions en 2015 et puis Fearless en 2018, trois albums qui, outre quelques morceaux instru, proposaient de vraies chansons aux allures hard rock et heavy metal. Et avec Quantum Leap, qui paraît aujourd'hui, eh bien Gus G a osé franchir ce fameux pas du tout instrumental. Il nous livre un recueil de 12 titres de pur heavy metal instrumentaux catchy en diable et parsemé d'une kyrielle de soli virtuose. L'album a été enregistré en collaboration avec le bassiste Dennis Ward de Pink Cream 69, qui tenait déjà le micro et la basse sur l'album Fearless, et qu'on retrouve ici à la production et puis à la 4 cordes. Quant aux baguettes, eh bien, elles sont tenues par le batteur anglo-philippin Ian Vincent Velasco. Alors c'est vrai que ce genre d'album, il s'adresse souvent avant tout à un public de guitaristes, mais malgré tout, on peut compter sur les talents de guitariste et de compositeur de Gus G pour nous convertir également, même si on est profane en matière de 6 cordes. Alors si vous ne pratiquez pas la guitare, mais que vous aimez simplement entendre de belles parties de guitare dans des morceaux accrocheurs, vous apprécierez certainement, peut-être pas tout l'album, mais au moins quelques titres de Quantum Leap, dont voici un extrait d'ailleurs avec un morceau qui est très nerveux, qui s'appelle Fierce. Voici tout de suite Gus G sur Back FM. la guitare déchaînée du virtuose de la six cordes grecque Gus G sur Bac FM dans l'émission Check Me Load. Vous venez d'écouter Fierce, un des 11 titres instrumentaux de l'album Quantum Leap qui paraît aujourd'hui. Alors pour terminer cette sélection de nouveautés, je vous propose un single. La semaine dernière, le 30 septembre, Ghost faisait son retour après 2 ans de silence discographique et sa nouvelle chanson s'appelle Hunter's Moon. Elle va figurer dans la bande originale du prochain film de la franchise de Halloween qui s'appelle Halloween Kills, dans lequel la future masquée Michael Myers va revenir persécuter Laurie Strode, sa victime depuis 78, qui est d'ailleurs toujours interprétée par la talentueuse Jamie Lee Curtis. Un film qui sortira sur les écrans français le 20 octobre prochain. Pour ceux qui aiment les films d'horreur, je sais pas ce que celui-ci vaut, mais le premier Halloween, il est mythique. Alors revenons à Ghost et à sa chanson Hunter's Moon. Elle est le fruit de la rencontre entre les forces créatrices de deux univers sonores et visuels très marqués, donc entre la musique et le cinéma, entre Ghost et les producteurs du film. Et sa genèse, elle remonte au concert que Ghost a donné en décembre 2018, c'était au Forum de Los Angeles, et là-bas, dans le public, il y avait un certain Ryan Turek, qui est vice-président du développement des longs-métrages chez Blumhouse Productions, c'est la boîte qui a produit notamment les films Get Out ou Insidious, et il est conquis par le show des Suédois et il décide de rencontrer immédiatement Tobias Forge, son leader. Alors entre les deux hommes, c'est une connexion immédiate qui va s'établir et qui va finir par aboutir à une visite, celle de Tobias Forge sur le plateau du tournage du film Halloween Kills, sur lequel il va rencontrer le réalisateur David Gordon Green. 3 ans, presque jour pour jour après cette genèse, ce premier échange décisif, voici donc la chanson Hunter's Moon qui est disponible sur toutes les plateformes numériques, qui illustrera donc le générique de fin de Halloween Kills et qui pour sa version physique sortira un peu plus tard. Ce sera le 21 janvier 2002 et ce sera un 45 tours collector sur le label Loma Vista Recording. La face B du 45 tours, elle contiendra le disque Halloween Kills Main Title, interprété, produite et réalisée par John Carpenter, Cody Carpenter et Daniel Davis, John Carpenter ayant réalisé le premier Halloween. Alors ce nouveau morceau de Ghost, c'est peut-être, enfin en tout cas je l'espère, annonciateur d'un nouvel album pour le groupe, un album qui succéderait enfin à Prequel qui était sorti en 2018, sachant que avant la sortie de Hunter's Moon, Ghost n'avait plus rien sorti depuis le 45 tours Kiss the Gogot Mary on a Cross, ça c'était en 2019, donc voilà, on espère avoir un album assez vite, mais en attendant voici le single Hunter's Moon de Ghost, et c'est bien sûr sur Bac FM.
It's been a long time coming, I'm coming back for you, my friend. To where we'd hide as children, I'm coming back for you, my friend. Though my memories are faded, they come back to haunt me once again. And though my mind is somewhat jaded now, it's time for me to strike again. Tonight, it's a hunter's moon.
Papa Emeritus et ses ghouls sont enfin sortis de leur crypte la semaine dernière avec ce nouveau titre, Hunter's Moon, peut-être annonciateur d'un nouvel album, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est annonciateur du retour de l'abominable Michael Myers sur les écrans. Hunter's Moon, ce que vous venez d'écouter sur les ondes de Back FM, est en effet un extrait de la bande originale du film Halloween Kills, qui sortira sur les écrans le 20 octobre prochain. Voilà, moi je sais pas vous, mais moi ça me fait grave plaisir d'avoir du son frais de Ghost, même si ça n'est qu'un single. On s'arrête là pour la sélection de nouveautés, parce qu'il est temps pour moi de refermer cette édition de Check Me Load sur un air de reprise avec la rubrique Sortez Cover, et on va retrouver nos trublions de 6h33. C'était le groupe à l'honneur de ce Check Me Load, avec la découverte de leur excellentissime nouveau concept album Fairy Tales for Strange Lullabies Dome, qui est paru vendredi dernier. Alors j'espère que vous n'avez pas loupé tout à l'heure l'interview de Rorschach, le chanteur du groupe, que vous pourrez donc retrouver en podcast, mais les revoici cette fois-ci, les 6h33, sans Rorschach. Il n'était pas encore là à l'époque. On va écouter une revisite de la chanson électro Starlight de The Superman Lovers, qui avait été un très très gros succès au début des années 2000, et qu'on va écouter bien sûr à la sauce métal avant-gardiste dont seul 6h33 a le secret, une version qui est parue en 2013 sur l'album The Stench from the Swelling, A True Story, sur lequel eh bien, c'est Arno Strobel de Carnival Incol qui tient le micro, qui officie de façon magistrale également. Alors en ce qui concerne la version originale de Starlight, elle est parue en single le 14 mars 2001, elle est signée donc The Superman Lover. C'est un projet French Touch qui laisse supposer que c'est un groupe qui se cache derrière ce nom, alors qu'en fait il s'agit d'un seul artiste, le DJ français Guillaume Atlan. Même s'il faut quand même le souligner, sur la chanson Starlight, il n'est pas tout seul, puisque c'est le chanteur Manny Hoffman qui interprète des paroles qu'il a d'ailleurs coécrit. Accompagné d'un clip qui à l'époque passe en boucle sur les chaînes musicales françaises, Starlight devient rapidement un hit. L'été suivant, il est quasiment impossible d'allumer une radio sans tomber sur la chanson. Un succès qui va dépasser nos frontières, puisque le single va atteindre le top 10 en Norvège, en Nouvelle-Zélande, en Irlande, en Italie, en Belgique. Il va se classer deuxième en France et au Royaume-Uni. Voilà, un gros succès. Ce sera le seul hit de Superman Lovers, mais ça va permettre quand même au DJ Guillaume Atlan d'être nominé aux Victoires de la Musique en 2002. Alors ça, vous allez me dire, c'est peut-être pas une gloire. Il est nominé dans la catégorie vidéoclip, en tous les cas. Et puis, il est nominé aussi pour les MTV Europe Music Awards en 2001, dans la catégorie meilleur artiste français. Donc voilà, vous connaissez toute l'histoire de ce morceau qu'on va maintenant écouter. Donc Starlight de The Superman Lovers, revue et corrigée par 6h33 en featuring avec Arno Strobel, une version que vous pouvez trouver sur l'album The Strange from the Swelling, A True Story, paru en 2013. Je rappelle une dernière fois que Fairy Tales for Strange Lullaby The Dome, le nouvel album de 6h33, est disponible. Il est absolument génial, écoutez-le ce week-end. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter rendez-vous, si tout va bien, vendredi prochain, avec encore une fois des nouveautés et une interview. Et en attendant, surtout, stay metal, stay rock and roll. Salut à tous, bon week-end sur Back FM. Voici tout de suite 6h33 avec Starlight.
Then you give me stars.